Alors après, j'ai un disque de Françoise Hardy. Alors c'est pas l'édition d'origine, parce que celui d'origine, on me l'a volé. Et donc j'ai une édition japonaise que m'avait offert Jacques No.
Est-ce qu'on peut voir la pochette?
Oui, bien sûr, c'est une très belle pochette avec une photo de Jean-Marie Perrier, bien sûr, avec un double profil, une pochette orange qu'on appelle l'album Orange. Et c'est un album qui n'avait pas marché, mais que j'écoutais moi toute la journée en perfusion. Et j'ai repris une des chansons qui s'appelle Si je m'en vais avant toi, en solo et en duo avec elle, quand je l'ai rencontrée. Il y a un titre que j'aime beaucoup, enfin je les aime tous beaucoup. C'est un album qu'elle a composé toute seule, écrit et composé toute seule, donc c'est très hardien. Voilà, il y a une chanson qui s'appelle Le Soir, j'aime bien. Mais bon, j'aime tout, la majorité de l'œuvre et puis de l'album aussi. C'est des disques fondateurs, quoi, qui sculptent sa personnalité, son oreille, sa sensibilité.
Le traitement de la voix, fait une espèce de double voix, comme ça.
Oui.
Là, techniquement, il n'y avait pas tellement de possibilités de faire mille effets, hein. On est en quelle année, là, à peu près?
C'est en 71, 72. C'est un album qui était enregistré à Londres. Elle enregistrait beaucoup à Londres à l'époque. Et ça sonne super bien. Et c'est un beau disque à redécouvrir, voilà.
Ça fait un peu peur, ces textes, par moments, parce que il y a quelque chose dans ces textes qui est quand même extrêmement sombre et, je dirais, violent. C'est violent par moments et je ne le perçois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un de très doux. Ou alors, la violence, est-ce qu'elle exprime une peur? Chez lui, je ne sais pas.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
En 1985, Françoise Hardy remet à Étienne Dao son premier disque d'or pour La Notée, La Notée. Au cœur de cet album, un rêve devenu réalité, chanté avec l'icône française des 60s. Le lien s'est resserré depuis La Notée, La Notée. Ces deux-là se connaissent bien. Quels sont les débuts de cette histoire miroir? Une vie martienne, quatrième épisode de Dao, fan de pop, avec une plongée au creux des sillons de l'album sorti à l'été 88 pour nos vies martiennes.
Qu'est-ce qu'il vous a apporté à vous, Françoise Hardy? Je parle du plan artistique, musical.
Alors ça, oui, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que moi aussi, j'ai mon petit univers. Donc, ce sont deux univers qui ont peut-être des points communs, je ne sais pas, mais... enfin, qu'il y en avait peut-être un peu au début, parce qu'il y a quelque chose que je peux rapporter à propos d'Étienne. C'était en 1988, j'enregistrais un album qui s'est appelé Décalage et sur lequel il y avait cette chanson Partir quand même. Et Étienne est arrivé au moment où il venait de temps en temps comme ça, et donc il est arrivé et il était en train, lui, de préparer son propre album. Et il avait trouvé une chanson qui tenait beaucoup à me faire entendre, qui était sur un mini cassette. Donc il m'a fait, je suis sortie de la cabine où se faisaient les mix, et puis il m'a fait entendre ça à côté. J'ai entendu cette chanson, je lui ai dit: Étienne, mais c'est tout ce que j'ai toujours aimé toute ma vie. Donc là, il y avait un point commun dans nos univers musicaux.
C'était Heure Hindoue, non?
C'était Heure Hindoue. Et c'est là vraiment où j'ai mesuré l'étendue de la gentillesse et de la générosité spontanée d'Étienne. parce qu'il me dit, mais je te la donne, prends-la si tu veux. Je lui dis, Étienne, on est en fin de mix, c'est pas possible. On peut pas, on est tenu, vous savez, quand on fait un album, on est tenu par des deadlines, des impératifs de date et autres.
Je pense qu'au fond de lui, si vous l'aviez prise, il aurait été heureux de vous la donner, mais en même temps, il l'aurait beaucoup regretté.
Ah bah, en tout cas, il aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à y perdre, certainement. Parce que moi, ça reste encore l'une des chansons de lui que je préfère.
Dao, fan de pop.
Entrée tard, par le douce air, comme le temps, et j'ai l'idée d'une idée dans les airs et décoller de ce bitume et séparer à fond calme dans l'air silencieux. Cette putain de pluie, la nuit est finie, peut-être enfin, demain nous appartient. Gemini, même si je ne suis rien, si je suis personne, personne. Gemini, un grain de poussière dans la grisaille. Gemini, un parfum qui vient de quelque part où la mort tourne son fréquence.
Toujours Gemini, parce que le refrain, il fait Gemini, c'est Heure Hindou.
Marcello Giuliani, bassiste.
Heure Hindou, qui est aussi une chanson que j'écoutais avant je dirais même mieux, je l'entendais à la radio, et je ne savais pas que c'était Dao il y a longtemps. Hein. Et je dis, oh, j'adore cette chanson. Et c'était Étienne. Donc, je me souviens, la première tournée, quand il regardait pour l'répertoire, je dis, Étienne, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire Heure Hindou? Parce vraiment, je l'adore, celle-là. Il me dit, bon, ok, si c'est pour toi, ok. Alors, là, j'étais vraiment, c'est vrai, j'étais content. J'adore cette chanson, voilà, il y a un truc vraiment, il y en a plein d'autres que j'aime, hein, mais celle-là, au tout début, c'est vrai qu'on a, c'était des, celle qui me faisait vraiment plaisir de jouer.
Dao, fan de pop. Aujourd'hui, une vie martienne.
Pour nos vies martiennes, 1988.
C'est un album beaucoup plus sombre.
Benoît Cachin, écrivain.
D'ailleurs, la pochette le fait comprendre, Étienne, un peu perdu comme ça dans une fête foraine. Il est dessiné comme une icône, comme un James Dean, comme ça, mais un peu paumé.
C'est une pochette dessinée par Guy Pellart. Mon adoré Guy Pellart, qui était un ange d'homme. Vous pouvez pas savoir l'extraordinaire mec que c'était. Il avait beaucoup marqué mon adolescence parce que ce livre s'appelle Rock Dreams, qui ont été des supports. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de photos de tous les gens qu'on aimait. Donc, c'était vraiment des représentations à des moments très forts. Donc, il y avait le Velvet, il y avait les Beach Boys, il y avait Dylan, il y avait tous ces gens-là avec des images très très fortes.
Donc, c'est pas étonnant, bien sûr, qu'Étienne avec. Il est attaché à la mythologie des chansons, des pochettes.
Nathalie Noënec, conseillère en images.
Je pense que, enfin, je ne me trompe pas, il possédait Rock Dreams de Guy Pellart. Et je pense que pour lui, c'est l'accession, c'est comme un rêve.
Et puis je connaissais la pochette qu'il avait fait pour Bowie et puis pour les Stones aussi.
Il avait fait un album d'illustration qui s'appelait Pravda, Pellart pour Françoise Hardy. Françoise Hardy, c'était une icône, on va dire, mondiale.
Et il a fait aussi... Joël, je crois, d'après Sylvie Vartan.
Tristan Béra, commissaire d'exposition.
Donc en fait, il est dans la lignée des chanteuses yéyé avec cette pochette de disque.
Et donc, il avait dit à quelqu'un que s'il y avait quelqu'un avec qui il avait envie de travailler en France, c'était moi. Donc quand j'ai su ça, j'étais... Enfin, ça m'a fait un effet, parce que pour moi, il représentait tellement de choses que le fait qu'il ait envie de travailler avec moi, c'était un cadeau inattendu, quoi, vraiment.
C'est la fin des années 80, c'est une pochette... Absolument emblématique, c'est la première fois qu'un artiste français travaille avec Guy Pellart pour une pochette d'album.
Donc je l'ai rencontré, à l'époque j'avais deux chansons, je lui ai fait écouter, c'est tout. Et donc il m'a dit qu'est-ce que tu veux. Je lui ai dit, écoute, je sais pas, mais dans Rock Dreams, il y a cette photo de James Dean qui est dans une fête foraine, il y a un mec qui est à côté de lui, ils ont l'air d'être complètement perdus dans un endroit où on s'amuse, dans un endroit où c'est la fête, mais eux ils ont l'air complètement dépressifs, ils ont l'air vraiment complètement d'être en tranchage de veine. Et je me sens comme ça en ce moment, c'est-à-dire que c'est la fête pour moi. Tout arrive et en fait, je me sens complètement dépressif, dépassé. Et puis, il m'a amené cette image.
Il est dans une fête foraine, il porte une sorte de t-shirt blanc un peu sale. C'est presque Marlon Brando sur les quais qui déambule comme ça dans une fête foraine.
Je suis dans une fête foraine avec quelqu'un qui peut ressembler à James Dean aussi. C'est censé être un meilleur ami, enfin quelqu'un qui vous promenait.
Il a quelque chose d'assez angélique, moi je trouve, sur cette... c'est une version fantasmée, c'est la vision de Guy Pellart de lui à ce moment-là.
La fête foraine a un côté un peu triste, un peu on s'amuse, mais il y a un côté... la nostalgie de l'enfance aussi peut-être, puis ces lumières, il y a trop de lumière, il y a trop de musique, voilà, et il semble un peu perdu.
C'est très fort parce que moi j'ai passé des heures à observer les détails et le génie de Guy Pellart.
Ça me fait rire parce que j'ai découvert un détail dont je ne parlerai pas dans l'image. Je pense que c'est un petit trait d'humour de Guy Pellart.
Pour nos vies martiennes, c'est un très joli titre. Il a toujours eu dans ses titres quelque chose d'assez littéraire. C'est venu naturellement. C'est quelqu'un dont on voilà. Il parle toujours de ses influences en musique, mais les repères littéraires, les citations littéraires, les références littéraires, c'est quelque chose d'ailleurs dont tu parles souvent. Et ça, c'est un très beau titre.
Pour Nos Vies Martiennes, c'est un album qui va être réalisé à Londres aussi, à un moment où Étienne a un peu de mal à gérer le succès de Pop Satori. Donc il s'enfuit, encore une fois, il s'enfuit à Londres.
Et souvent, Londres a été la ville où je me suis soigné, parce que d'abord, je retrouvais une forme d'anonymat dont j'ai besoin. Je retrouvais l'appétit de pouvoir aller voir des concerts sans être harcelé ou reconnu, de pouvoir rencontrer des gens sans avoir une pochette de disque sur la tête, et d'avoir surtout le temps de travailler. Parce que malgré tout, il suffit pas de faire des télés, des radios, il faut travailler pour faire des chansons. Ça se fabrique, ça s'écrit, ça se travaille. Et je n'avais plus du tout ce temps-là. Et ça, c'est très très frustrant. J'ai découvert que je passais mon temps en promo et que ça n'allait pas, quoi. Vraiment, ce déséquilibre me déplaisait beaucoup. Vraiment, je suis avant tout un musicien.
parfois. Et mon humeur est down, 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 down.
J'avais envie de casser le malentendu qui était en train de s'installer avec Pop Satori. Je suis parti à Londres, du jour au lendemain. Je suis allé soigner une gueule de bois générale, de succès, de trop d'alcool, trop de substances, de trop de sexe, de trop de tout en fait, d'abondance, de tout. Parfois ça nuit, parfois pas, mais là j'étais fatigué, j'avais besoin de faire un break.
Vous allez rechercher l'inspiration. Alors, vous êtes à Londres, là. Effectivement, il y a peut-être ce recul-là. Mais enfin, pour être capable de raconter des vraies choses, alors que vous vivez une vie qui n'est pas vraie, enfin, entre guillemets, enfin, qui n'est pas la vie classique.
Mais c'est la raison pour laquelle je m'isole. C'est-à-dire qu'en fait, aller à Londres me permet d'avoir une vie très normale. Prendre le métro, être avec les autres, vivre avec les autres. Autrement, je peux pas écrire. J'ai pas assez d'imagination pour écrire sur ce qui ne m'arrive pas. J'écris sur les gens que j'aime, sur les endroits que j'aime, sur ce qui m'arrive, comment je ressens les choses. J'essaie de communiquer ça pour faire un lien avec les autres. C'est tout. Moi, quand je pars à Londres, là, je pars dans une garçonnière. Là, on est dans l'opulence. Je viens de revenir à Paris parce que mon disque est fini, mais j'habite dans un endroit qui est microscopique avec rien du tout. Enfin, j'ai besoin de rien. Je quitte tout pour écrire et pour travailler. C'est une forme d'abnégation. C'est une forme de, pas de punition, hein, parce que c'est tellement fantastique d'écrire un disque, mais c'est une façon de partir pour ne faire que ça. Pour ne pas être perverti par autre chose. Jusqu'à une certaine heure. Bien sûr. Donc voilà, je suis parti faire un album à Londres. Je savais pas du tout avec qui j'allais travailler. Arnold commençait une carrière solo. Je savais pas trop. J'ai rencontré un producteur qui s'appelait Ben Rogan, qui avait beaucoup travaillé avec Sade, que j'aimais beaucoup comme personne. Et puis il a commandé la même chose que moi au restaurant. Je me suis dit, bon, je vais travailler avec lui.
Non, sérieusement.
C'est vrai?
Ouais.
C'est vrai. On a commandé saucisses purées tous les deux. À l'époque, j'étais pas végétarien. Et je sais pas, il m'a fait rire, il était drôle. Je savais ce qu'il avait fait avec Sade, hein, bien sûr. Non, j'aimais bien l'attitude qu'il avait par rapport à la musique. Il se prenait pas au sérieux, il était drôle. J'ai eu confiance, puis c'est l'intuition. Je me suis dit, c'est le bon mec pour le faire. Et on est rentré en studio, on a fait cet album.
Donc ça signifie que c'est un moment où vous dites maintenant, c'est une période où je vais écrire un disque et donc je vais aller me ressourcer, etc. Ou est-ce que c'est une accumulation de moments qui vous mène à une période où vous dites, j'ai ce qu'il faut pour écrire un disque?
Non, parce que je suis parti sans rien. J'avais juste écrit Bleu comme toi. Et je crois que j'avais peut-être une chanson que j'avais fait avec Arnold qui s'appelle Déhir ou Désir, je sais pas. Je sais même pas moi-même comment on prononce. Non, j'avais rien pour partir. J'ai tout créé de toutes pièces là-bas. Tout était à refaire. Et j'ai tout a été refaire en un temps record, bien sûr. parce que j'ai mis très très peu de temps à enregistrer cet album. À l'époque, on répétait 3-4, j'ai constitué un groupe de gens que j'aimais beaucoup. Et on a fait 3-4, on a répété les chansons, j'ai écrit les chansons avec des musiciens que j'ai rencontrés sur place. On a répété, on est rentré en studio, on a enregistré tout ça, ça a été en claquement de doigts.
3-4. Déjà 4 hivers, à ne savoir que faire, à compter les vagues de la mer. À ne savoir quoi faire. Combien de sous venir aux amers? Combien de sous venir aux amers? Combien d'années avant de voir ta lumière? Les jours sont comme des années-lumière. Déjà 4 hivers, à ne savoir que faire.
Et un jour, un des musiciens que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Monday, que je connaissais parce qu'il travaillait avec Sinéad O'Connor, et qu'on se connaissait, qu'on se rencontrait à ce moment-là, m'a amené une musique. Il m'a dit tiens, j'ai ça. Et donc, en rentrant en métro, j'ai écouté la chanson et c'était Heure Hindoue. Je me suis dit, mais il est dingue de me donner ça maintenant, le disque est fini, on venait vraiment de terminer. Hein. Et donc, j'ai rappelé tout le monde, j'ai dit, bon voilà, prends le bas de combat, demain on enregistre cette chanson. Et donc, tout le monde a été convoqué, et puis j'ai dû faire le texte dans la nuit. et j'ai chanté Heure Hindoue, et puis voilà, c'était fait, heureusement. Et donc, quand j'arrive à Paris, je fais écouter cette chanson à Françoise Hardy qui me dit « Oh, mais c'est tout ce que j'aime, cette chanson !» Je lui dis « Mais prends-la, si tu veux, elle est à toi. » Et Dieu merci, elle ne l'a pas fait. Parce que c'est tellement une chanson importante pour ce disque. Mais si elle l'avait voulu, j'aurais donné. Hein.
Je peux pas dormir, j'ai les nerfs. Pourquoi t'as plus de charme, plus de mystère? Magie rompue, affaire foutue, affaire classée. Je peux pas dormir au plafond, les yeux collés à l'envers. Magie rompue, affaire foutue. Affaire glacée. Ne plus repenser. Ne plus repenser. Nos regards émus. Nos baisers coulus.
jamais pouvoir toi passer.
Dao, fan de pop.
Né en 56 à Oran, Étienne Dao débarque en 65 à Rennes, ville estudiantine bretonne. Il vit chez sa tante et son oncle. Sa mère, Lucie, le rejoint plus tard.
Quand je me suis installé à Rennes, je n'aimais pas du tout la classe dans laquelle j'étais. Il a fallu recommencer. Et c'était assez dur, quoi, vraiment. Et un jour, j'avais pas eu de très bons résultats. C'était un peu compliqué. C'était un moment où j'étais un peu en rébellion. Et donc, mon oncle m'a rasé la tête, mais partiellement, par petits bout comme ça. Et je suis arrivé à l'école, je n'osais pas enlever ma capuche parce que j'avais des trous dans la tête. Quoi.
Pourquoi il avait
pas,
ça
j'avais pas pour me faire honte parce que j'avais eu des mauvais résultats scolaires. Et j'ai été humilié à un point que je ne pourrais raconter. J'ai eu extrêmement honte de moi. Enfin, j'ai eu une sensation. Ça a été difficile. Ça a été difficile, vraiment. Alors ma mère est rentrée en France après quelques mois, donc pendant un an je n'étais pas du tout avec elle. Quand elle est rentrée, elle a traversé une période très compliquée, bien sûr, et elle a fait une dépression très forte. Ça a été très brutal de quitter un pays, de retrouver un travail, d'avoir peur pour ses enfants, enfin de sentir vraiment qu'il fallait tout rebâtir. C'était un moment très difficile pour elle. Et donc voilà. Mais les choses ont fini par s'améliorer. Elle a commencé à trouver un travail. Alors on a commencé à revivre ensemble. Il fallait réapprendre à vivre ensemble aussi, véritablement.
Mais elle et vous, sans vos sœurs ?
Ma sœur aînée était restée à Paris avec ma grand-mère, mes grands-parents et mes tantes. Et ma plus jeune sœur était à Rennes aussi. Elle était en pension. Donc, il y avait une espèce d'explosion comme ça. Il fallait reconstruire des choses. Il fallait retisser des liens. Et dans mon esprit d'enfant, le fait que ma mère soit restée en Algérie, j'avais vécu ça vraiment comme une espèce d'abandon, d'une certaine manière. Donc il a fallu que je reconstruise mon lien avec elle. Ça n'a pas été très simple.
Étienne vivait la plupart du temps seul dans cet appartement. Sa mère travaillait dans une usine de produits chimiques, comme secrétaire, je crois. Et la plupart du temps, quand je venais voir Étienne, il était seul. Et grimpait par un ascenseur au 8e étage.
François et Benoît Ledez.
C'était tout simplement un appartement de HLM. Hein.
Ami d'enfance d'Étienne Dao.
Un appartement extrêmement modeste.
Sa chambre se trouvait à l'extrémité d'un couloir. C'était une petite chambre qui était tapissée d'inscriptions. Je me souviens de l'une d'entre elles en particulier, qui était, je crois, extrait d'un morceau de Ferré, qui était donc « Je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches ». C'est le souvenir que j'en ai. Il avait également une citation de Henry Miller, quasiment au seuil de la porte. On ne franchit pas cette porte avec ses névroses, s'il vous plaît.
J'ai le souvenir d'avoir rencontré sa mère, qui est une femme extrêmement gentille, courageuse, ayant eu un parcours difficile, qui de ce fait donc a dû prendre le taureau par les cornes pour parvenir donc à élever ses trois enfants.
Madame Dao faisait quelquefois des apparitions et elle était tout à fait dans la marque de fabrique Dao, puisqu'elle était toute en discrétion, en réserve, hein, et en même temps avec quelque chose d'assez lumineux.
C'était une dame qui partait très tôt le matin.
Cricket Éluard.
Qui rentrait très tard le soir.
Ami d'enfance d'Étienne Dao.
Il manquait de rien, il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Il était bien habillé, il avait tout ce qu'il fallait, etc. Mais l'appartement était vide, je dois le dire, oui, c'est vrai, c'était comme ça.
Dao, fan de pop.
Yeah.
Vienne était, d'une manière assez étonnante, déjà à l'époque habitée par la musique. Et entre autres, ça tenait à une période précédente qu'il avait connue à Paris.
Deux de mes tantes avaient ouvert une brasserie en face du Moulin Rouge, ça s'appelait le French Cancan. Et donc le jukebox a continué parce que je récupérais à chaque fois tous les disques. C'était un événement pour moi de récupérer tous ces 45 tours. Pour quelqu'un comme moi qui était un dingue de musique, déjà.
Il m'a offert, et je m'en souviens encore de manière extrêmement claire, un disque qui était probablement issu d'un jukebox. Il s'agissait d'un disque de Richard Anthony.
Qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot, ou je pars au triple galop.
C'était un disque qui avait une pochette papier, simplement, et rien d'autre. Et rétrospectivement, quand j'ai appris qu'il avait eu accès à ce jukebox de manière très fréquente, quelques années avant, je me suis dit que c'était probablement issu de ce jukebox.
Donc là, vous aviez 12 ans.
Nous avions 12 ans.
Chez les Dao, la musique est centrale. Poste de radio avec tourne-disque intégré, jukebox, ses tantes, sa mère, ses sœurs composent pour lui la bande originale de son enfance. Il découvre les Yéyés et bientôt le groupe d'Andy Warhol, le Velvet Underground.
J'avais une connaissance de la musique assez pointue parce que je récupérais tout. Donc j'écoutais tous les faces B, j'écoutais pas ce qu'écoutaient mes petits camarades, j'écoutais la pop anglo-saxonne, j'écoutais la Motown, des choses de soul américaine et tout ça. Donc je me suis fabriqué l'oreille. Mon oreille s'est sculptée en écoutant des tas de choses qui n'étaient pas forcément la radio, qui n'étaient pas forcément les idoles françaises de ces années-là. Mais j'aimais aussi beaucoup de choses en français. J'aimais beaucoup Bobby Lapointe, Brigitte Fontaine, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Dutronc, Paul Naref, Véronique Sanson. Tout ça, il y avait des artistes quand même que j'adorais en France. Je peux pas tous les citer. Christophe, Manset. Il y a quand même légion d'artistes fantastiques, quoi.
Je sais qu'un jour je vivrai sans toi, le temps des souvenirs.
Et quand j'allais chez lui, parce qu'on allait écouter de la musique chez lui, on allait écouter Françoise Hardy, entre autres.
Cricket Éluard, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Parce qu'il était déjà très amoureux de Françoise Hardy, on connaissait par cœur, hein, en boucle.
Je me suis beaucoup inspiré de Françoise Hardy, par exemple. Ça a été vraiment ma source d'inspiration principale. Même si au bout du compte, j'y ai mis mon style et ma personnalité sans le savoir. Mais au départ, c'était ces climats-là que je trouvais parfaits pour moi. C'était ultime comme... Enfin, elle est ultime comme artiste, de toute façon.
Et c'était marrant parce que quand on écoutait la musique, quand on était petit, j'avais déjà l'impression, en fait, maintenant que j'y repense... Je me dis qu'il vivait, par exemple, quand on écoutait Françoise Hardy, c'était comme s'il l'avait déjà connue, il vivait déjà avec elle. Les artistes qu'il écoutait faisaient déjà partie de sa vie, quoi. Après, il a réalisé son rêve, il les a rencontrés et tout ça, mais il était tellement imprégné de ces gens-là que c'est pas étonnant, si vous voulez, qu'il ait pu, après, avoir une espèce de communion avec eux, quoi. Parce que Françoise Hardy, elle l'a tout de suite beaucoup aimé. Moi, j'ai dîné un soir avec elle et Étienne et j'ai senti qu'il y avait vraiment une grande proximité. Mais cette proximité-là, elle existait déjà quand il écoutait.
Et si je m'en vais avant toi, dis-toi, bien que je serai là, j'épouserai la pluie.
N'était pas encore véritablement initié au rock. Je crois que les connaissances qu'il a faites dans ces années-là...
François et Benoît Ledez
lui ont beaucoup apporté.
Amis d'enfance d'Étienne Dao.
Il faut rappeler qu'il y a eu un événement central. Je suis venu le voir avec un disque sous le bras et dont je ne pouvais pas imaginer quelles seraient les répercussions sur son imaginaire. C'était le disque du Velvet Underground, featuring Nico, avec cette fameuse pochette-là créé par Warhol. Et là, ça a été une sorte de déflagration.
Une déflagration. Je crois qu'il est difficile donc de le dire autrement. Et de telle sorte que pour ce qui a suivi, je me souviens très bien de ce qu'il nous a dit. Étienne nous a dit, je me souviendrai de vous. Phrase pour le moins donc surprenante, voire déconcertante à l'époque. Tout se passe comme s'il avait une sorte de préscience du parcours qu'il allait faire.
Il a basculé à partir de ce moment-là dans autre chose.
Et de fait, vous savez ce qu'il en a été, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il a rendu hommage à Lou Reed.
John Cale m'a invité à chanter avec lui à la Philharmonie, une chanson du premier album du Velvet. Tout ça, c'est des reconnexions avec ma base, en fait. C'est comme un petit conte de fées, quand même.
Sunday morning, bring the dawn in. Just a restless feeling.
Et récemment, il y a quelques mois, il m'a envoyé donc un article de journal avec donc une interview de Lou Reed, interview dans laquelle Lou Reed faisait l'éloge d'un certain Étienne Dao.
Il disait qu'il trouvait que ma voix était très chaude et qu'elle avait la texture d'un coucher de soleil et du champagne. Alors je sais pas si dans sa tête c'est de boire une coupe de champagne au moment du coucher du soleil. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais ça m'a fait tellement plaisir. Quand on aime tellement les gens, être reconnu par eux, enfin compter pour eux, ça m'importe vraiment beaucoup. Vraiment. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you.
Un jour, on est allé à la fête foraine. Il avait 14 ans. Et on est rentré dans une roulotte. Parce qu'Étienne aimait bien tout ce qui était cartomancie, machin, tout ça. Et je me souviens très bien qu'en sortant, il m'a dit c'est incroyable ce qu'elle m'a dit, cette femme. Elle m'a dit que je serais très connue, que j'allais faire un métier d'artiste et que je serais très connue. En tout cas, je savais qui pouvait pas avoir une vie comme les autres. Ça, c'était clair.
Mais pourquoi ?
Ah ben parce que c'était un personnage fantaisiste. Il y avait beaucoup trop de fantaisie en lui pour avoir un destin comme les autres. Il faut dire les choses, il était quand même assez élitiste aussi. Il était très exigeant. Il avait beau, si vous voulez, faire des bêtises, être rieur et tout, il y avait toujours une grande exigence. Ça se voyait à sa façon de s'habiller, d'être. Il voulait pas être comme tout le monde. Il voulait une vie particulière.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, femme de pop. Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire. Narration Christelle André.
Chant des sirènes envoûtant, des chimères, des fables et du vent, viens me retrouver pour l'éternité. Loin des trésors de sable mouvant, de l'or des épices et des rubans, viens me retrouver. L'éternité. Oh, combattre pour l'éternelle retrouvaille. Ne sera pas de plus noble bataille à célébrer, célébrer, célébrer. Dans le désert où s'arrête le temps, à la roue le soleil. Affront, viens me retrouver pour l'éternité. Ce talisman protège les amants des mirages et des ouragans. Viens me retrouver pour l'éternité. L'éternelle retrouvaille, il sera pas de plus noble bataille à célébrer, célébrer, célébrer. Combattre pour l'éternelle retrouvaille, non, il sera pas de plus noble bataille à célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer. fout pour l'éternel retrouvaille. Ne sera pas le plus noble bataille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les honneurs ni les médailles, mais ce ne sera pas de plus noble bataille à célébrer, célébrer, célébrer.
Dao, fan de pop.
Dans le prochain épisode, les témoins de l'époque nous raconteront comment Étienne Dao a débuté dans le monde de la musique.
Le soir, j'étais DJ dans une boîte de nuit, donc je dormais 3 secondes par nuit, quoi. Donc, et il m'a dit, t'as une bonne tête, t'as une tête de chanteur, faut que tu sois le chanteur de mon groupe.
Ah bon, vous croyez, non
Richard Dumas, photographe et guitariste d'Étienne Dao sur ses premières maquettes.
Bon, peut-être je passerai à essayer à la prochaine répétition, et puis en fait on le voyait jamais.
J'aimais la musique, je projetais vaguement comme ça de faire des chansons, mais tout d'un coup de chanter avec les autres, me retrouver devant un micro, ça me paraissait insurmontable. Donc il est venu me chercher plusieurs fois chez moi, les dimanches, pour que je vienne aux répétitions, et puis j'étais derrière la porte, j'ai jamais ouvert en fait. J'étais tétanisé d'un coup d'avoir à me montrer devant les autres, quoi. D'avoir ouvert la bouche.
J'ai même fait sa toute première pré-maquette avec lui.
Jean-Éric Perrin, à l'époque, journaliste à Rock & Folk.
En tant que technicien, avec une espèce de vieux, les magnétophones à cassette qu'on avait à l'époque, où il y avait un bouton qu'il fallait tourner à droite ou à gauche pour avancer, reculer, et puis pousser comme ça, et puis un petit micro directionnel. Et donc, il jouait de la guitare sur une seule corde, parce qu'il savait pas jouer de guitare. Il avait composé comme ça 2-3 chansons, 2-3 mélodies. Et moi, je dirigeais le micro, j'étais vraiment un ingénieur du son de pointe, je dirigeais le micro alternativement vers sa voix quand il chantait, vers sa bouche, et vers la guitare quand il essayait de faire 2-3 notes de guitare. C'était vraiment, je pense, les avant-prémices de sa carrière.
Un jour, j'étais en train de boire un verre en terrasse, et soudain, Étienne apparaît, je le vois, il avance avec des amis, et puis il vient me voir, il me dit, tu joues encore de la guitare, Richard? Je dis oui. Il me dit non parce que j'ai quelque chose à te faire écouter. J'ai enregistré des morceaux, j'ai enregistré des chansons, j'ai fait des musiques, des paroles et tout ça. Et si on pouvait se voir, ça serait bien.
Nous danserons dessous les bombes, derniers adieux à l'autre monde. Un ultime bras d'honneur, sans les médailles et sans les fleurs, nous chanterons les yeux rougis par la fumée et les débris en l'espace d'un court instant, dans un fracas assourdissant cet éclair blanc.